Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Hi! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Maxime Lecomte, éducateur et entraîneur des U17 au CF Montréal, au Canada. Avec lui, nous avons évoqué son parcours peu commun, ses principes de jeu, ses influences et son quotidien dans le club de Montréal. Nous sommes également revenus sur le développement de la MLS, sur la volonté de nombreuses franchises nord-américaines de miser sur la formation et sur le futur du football outre-Atlantique. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Maxime Lecomte. Bonjour Maxime Lecomte et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour à toi Yann.
Alors dans ce podcast Maxime, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as pu ressentir? J'aime bien dire à mes invités que c'est leur Madeleine de Proust, à laquelle il repense de temps en temps avec affection.
Eh bien, je ne vais pas être très original, mais pour moi, ça a été le France 98, bien évidemment, en France. J'ai 8 ans, c'est à peu près à ce moment-là que... Bon, ça fait déjà 3-4 ans que je joue au foot, mais c'est, je pense, à ce moment-là que tout commence et puis que je deviens vraiment un passionné à regarder les matchs à la télé et à aimer plus que de jouer ce foot, le foot, c'est de regarder les matchs et puis d'avoir vécu cette Coupe du Monde dans notre pays, c'est quand même quelque chose d'incroyable. En plus de l'avoir gagné contre le Brésil de ces années-là, c'était un moment incroyable. Donc j'irai sur ce match-là, France 98 contre le Brésil.
Et est-ce que, petite question, est-ce que tu as un match préféré depuis que tu es éducateur? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit à ce match-là, il était trop cool?
Je pense qu'un qui m'a frappé, c'est le Liverpool-Barcelone, le match retour où Liverpool refait, on va dire, une remontada. Bon, c'est là vraiment que ça m'a impressionné au niveau de... Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de tactique, de technique et tout, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment donné, il y a aussi tout l'état d'esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui est très forte là-dedans, c'est le Liverpool de Klopp. Donc ça m'a vraiment impressionné de pouvoir renverser un match comme ça. Avec en plus Anfield qui est un stade mythique. Mais ouais, ça m'a vraiment marqué sur ce match-là.
Alors, on va évoquer ton parcours pour commencer. Et ça va nous emmener de Nantes au Québec en passant par le Mexique, le tout en étant adolescent. C'est quand même pas mal. Raconte-nous un peu tes années en France à l'école de foot du FC Nantes, si j'ai bien tout suivi.
Ouais, ça a commencé d'abord à l'ES Maritime, donc c'est pas loin de la Baule. Et puis, après quelques années, je change de club. Je joue à Saint-Nazaire, qui était à ce moment-là un club un peu partenaire au FC Nantes. Puis voilà, j'ai fait des essais pour rentrer à Nantes, en fait. Donc, je ne suis pas rentré à Nantes parce que mon père, justement, a déménagé pour le travail au Québec. Mais voilà, j'ai joué surtout à Saint-Nazaire et puis j'ai fait pas mal d'essais pour rentrer au FC Nantes. Je devais rentrer à la fin de mon année U15. Mais malheureusement, et heureusement aussi après, parce qu'au final, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je suis parti au Québec.
Donc, tu étais originaire de ce coin-là, enfin, tu étais basé en tout cas dans ce coin-là. Est-ce que le FC Nantes avait un attrait particulier pour toi en tant que gamin?
Disons que oui et non, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs. Et puis, vu que j'étais au club école, comme je disais, qui était Saint-Nazaire à ce moment-là, il y avait de l'intérêt, mais c'était pas non plus à devoir rester, ne pas suivre mon père. Donc, au final, c'était oui, intéressé, mais pas au point de pouvoir me garder, même si mon père déménageait, en fait.
D'accord. À 15 ans, tu pars direction Montréal, tu l'as dit, pour des raisons familiales. Dans ces années-là, le football n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui en Amérique du Nord. Comment tu maintiens ta passion pour le foot en club à ce moment-là? Parce que tu disais, tu avais fait des essais pour rentrer à Nantes, tu pouvais y aller, mais ça ne s'est pas fait pour ce déménagement. Quand tu arrives là-bas, comment tu maintiens ta passion en club? Comment tu trouves un club? Comment ça se passe?
Au début, ça a été difficile parce que quand tu es gamin et que tu as 15 ans, tu rêves de, comme tout joueur encore aujourd'hui, d'être professionnel. Et puis là, tu as l'impression de t'éloigner de ton rêve, on va dire. Et du coup, tu t'éloignes aussi de l'Europe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, comme tu l'as dit, l'Amérique du Nord n'est pas encore ce qu'elle est devenue maintenant. Et du coup, au début, c'est vraiment difficile. En plus, c'est vraiment une culture complètement différente. Le hockey est vraiment le sport national encore plus à ce moment-là. Et du coup, ça a été vraiment compliqué les premiers mois. Même de jouer, c'est vraiment un style différent que je n'étais pas habitué. Ça se rapproche de l'Angleterre un petit peu. C'est très agressif. La tactique n'est pas forcément mise de l'avant comme elle l'est aujourd'hui. Donc au début, j'ai vraiment des mois très compliqués. En plus de tout ce qui est culture, au départ j'ai vraiment du mal, mais bon, après ce qui me permet de rester passionné, c'est quand même d'avoir encore à ce moment-là les réseaux et de rester informé par rapport à ce qui se passe en Europe. Et puis j'ai eu la chance quand même de grandir au moment où la MLS va faire son entrée en Amérique du Nord et va beaucoup aider autant les États-Unis que le Canada. Donc je dirais que ça a été compliqué au début. Mais les choses ont fait que le foot a évolué et puis ma passion, du coup, n'a pas diminué. En fait. L'autre point, c'est aussi la chance d'avoir beaucoup, beaucoup d'immigration au Canada. Donc, ça permet de garder cette passion éveillée parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gamins qui sont dans ta situation, des collègues. Et donc voilà, ça permet de rester connecté, en fait, à ce qu'on connaît en Europe ou quand on quitte notre pays d'origine.
Et comment tu te retrouves alors 2 ans après ton arrivée au Canada à aller au Mexique? Quelle détection il y a? Comment ça se passe? Quelle décision tu prends aussi vis-à-vis de ta famille? Parce que bon, même continent, mais quand même assez loin en distance. Comment ça se passe?
En fait, c'est vraiment une drôle d'histoire. Je fais un match à Montréal et puis il y a un entraîneur à la fin du match qui vient me voir et puis qui me dit « Voilà, je forme une équipe pour aller faire un voyage au Mexique. On va jouer des matchs. On va aller voir des matchs là-bas, à Azteca. On est allé voir América Cruz Azul. » Il me dit, voilà, c'est un voyage qu'on fait un peu sans attendre forcément à la fin. Et puis, il me propose d'y aller. Donc, mes parents m'offrent ça. Et je me retrouve au Mexique pendant une semaine et demie. Et en fait, pendant ces jours-là, on joue au centre de formation de Cruz Azul. Et je me fais voir. Et à la fin du voyage, quand on revient à Montréal, ils annoncent que 2-3 joueurs ont tapé dans l'œil du club. Et donc, je me retrouve à retourner pendant 3-4 mois en essai là-bas durant l'été. Et c'est à ce moment-là qu'à la fin, je fais le tournoi de Guadalajara là-bas avec le Cruz Azul. Et plusieurs clubs sont intéressés par moi au Mexique. Mais finalement, Cruz Azul décide de me garder et de me proposer d'aller au centre de formation. Donc voilà, je fais mes études. Je vais au lycée français en même temps. Et puis voilà, et je me retrouve en fait vraiment... C'est un peu le hasard qui fait que c'est un match de foot au Québec qui m'a envoyé faire un voyage au plaisir, on va dire, au départ.
Et donc, tu fais 2 ans au centre de formation de Cruz Azul?
Ouais, exactement. Je fais 2 ans. Je m'entraîne avec les U17, les U23 et quelques entraînements avec la réserve. Puis après, malheureusement, il y a un changement de directeur d'académie quand je suis là-bas. Et ils font des coupures au niveau du budget. Et puis du coup... tous les étrangers qui étaient là ou qui venaient de l'extérieur, on se retrouve avec plus d'appartements, plus rien, et ça devient compliqué. Bon, on connaît après le Mexique, c'est un très beau pays, avec une culture magnifique, mais c'est vrai que quand tu te retrouves sans toi, à un moment donné, ça devient compliqué. Et là, la raison, même si tu as envie d'y être et que tu sais que c'est peut-être ton rêve qui est là au bout, mais la sécurité est primordiale, surtout dans des pays comme ça. Donc malheureusement, je dois rentrer à ce moment-là.
Et qu'est-ce que tu retiens de ton expérience en centre de formation? Parce que tu pouvais espérer rentrer dans celui du FC Nantes. Finalement, quelques années plus tard, tu te retrouves à Crousasoul, dans vraiment une culture totalement différente de ce que tu aurais pu connaître à Nantes, de ce que tu connaissais en tout cas aussi au Canada. Qu'est-ce que tu retiens à la fois footballistiquement déjà? Qu'est-ce que tu y as appris? Quelles étaient les spécificités des équipes de jeunes du Mexique? Et puis aussi humainement, dans ce nouveau pays et dans cette culture-là?
Bah, bien évidemment, comme tu l'as dit, c'est toute la culture qui est complètement différente, la passion aussi que les gens ont là-bas, que ce soit pour le sport, que ce soit les supporters ou même les jeunes. Mais je pensais qu'en Europe, on était passionnés et on l'est, hein, mais vraiment, quand tu rentres dans des pays comme ça, c'est toute leur vie, en fait. Même les jeunes qui étaient au centre de formation avec moi, leur objectif, c'est d'être pro pour en fait sortir leur famille de la misère ou de ce qu'ils vivent. Et on voit vraiment qu'ils font tout, c'est des acharnés de travail, les préparations physiques au Mexique. On parle souvent de l'Italie, mais au Mexique, j'en ai fait, qui m'ont donné des mal de tête et des mal de ventre. Vraiment, c'est vraiment très impressionnant. Et d'ailleurs, dans un reportage de Tigresse avec Gignac et Thauvin, on voit justement que les préparations physiques sont très intenses au Mexique. Puis après, il y a toute la passion qu'il y a, elle est vraiment débordante, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs. C'est vraiment une culture incroyable, que ce soit la vie, que ce soit le foot. Puis après, au niveau tactique, c'est vrai que c'est complètement différent. J'ai eu la chance de pouvoir jouer en France, de pouvoir jouer au Canada. Et puis le Mexique, c'est encore un autre football. C'est une passion débordante, même sur le terrain. Ça va vite, c'est des joueurs très techniques. Des fois, il manque un petit peu, il y a même un peu trop de passion. On en oublie et ça devient un peu des matchs fous. Mais vraiment, c'est vraiment une culture. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, ça m'a montré quelque chose de différent du foot aussi que je ne connaissais pas. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la personne que je suis aussi, parce que j'ai vu des choses que je ne pensais pas voir un jour aussi dans les villes, dans les grandes villes comme Mexico. Donc ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, pas juste sur le foot, quoi.
Ensuite, après cette expérience-là, tu l'as dit, tu retournes, tu rentres au Canada et tu as quand même un parcours qui est assez dingue parce que tu vas jouer avec l'équipe nationale de futsal, avec celle de beach soccer, ensuite au football plus traditionnel avec l'AS Blainville. Quand tu regardes aujourd'hui un peu dans ton rétroviseur, tu es conscient de ce parcours fait d'expériences peu communes, alors très riche, hein, j'imagine, parce que tu as vu beaucoup de choses, tu as côtoyé des cultures, tu as vécu dans des cultures, dans des pays où les cultures sont très différentes, mais tu as conscience que, allez, on va dire, à 30 ans, tu as quasiment 3 vies en une, quoi.
Ouais, non, c'est clair que je me suis jamais fermé les portes. Je suis quelqu'un qui, déjà de base, aime beaucoup voyager, aime rencontrer les gens, aime échanger, aime voir de nouvelles cultures. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire même d'autres sports. Et je trouve que même que ce soit le futsal ou le beach, ça m'a, en plus de pouvoir vivre des expériences internationales, parce que même si ce n'est pas vraiment le football à 11, ça reste une expérience internationale contre d'autres pays. De pouvoir porter le maillot d'une équipe nationale, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis après, ouais, comme tu l'as dit, c'est un vécu incroyable. Je suis vraiment très content de mon parcours, même si j'ai pas de regrets. C'est sûr que j'aurais espéré avoir une meilleure une carrière peut-être de joueur, mais voilà, j'essaye de, comme dans ma vie de tous les jours, de pas regretter ce que je fais, de pas trop regarder en arrière, mais de plutôt utiliser ce que j'ai vécu pour aujourd'hui être qui je suis, autant comme joueur que comme personne. Et même comme entraîneur. Donc, non, je suis vraiment très content d'avoir vécu tout ça. Et puis j'aime faire beaucoup de parallèles avec ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai pu vivre. Je pense que, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de vivre des choses, autant au foot que dans la vie personnelle, en rencontrant des gens, en ayant croisé des cultures complètement différentes, qui m'aident même aujourd'hui dans le coaching.
Étant donné que tu as fait du futsal et du beach, est-ce que ces deux sports connexes ou ces deux variantes du football plus traditionnel peuvent aujourd'hui devenir des activités connexes dans le développement des jeunes footballeurs? Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros, est-ce que, je te prends un exemple tout simple que je connais assez bien, à l'Ajax, au centre de formation, ils se sont rendus compte que le football de rue se perdait au début des années 2010. Et donc, ils ont décidé de, c'est tout bête, hein, mais de construire un espace en béton pour que les jeunes de l'académie puissent jouer dessus, parce qu'ils considèrent que quand on joue dans la rue, on ne tacle pas. Et c'est vrai, enfin, pour tacler sur le béton, il faut quand même être un peu fou. Mais on ne tacle pas, on défend debout, on s'habitue à une surface qui est un peu différente. Et donc, ça nous fait très réfléchir sur les trajectoires, sur les rebonds, sur tout ça, etc. Est-ce que le futsal et le beach et les expériences que tu as pu connaître à titre individuel comme joueur font qu'aujourd'hui, en tant qu'éducateur, tu pourrais imaginer faire des séances ou t'inspirer de ces activités-là, de ces sports-là, qui sont de simples variantes de dimension de terrain et de surface de terrain et de nombre de joueurs, évidemment, par rapport au football normal?
Ouais, tout à fait. Je le fais. Et puis même moi, comme joueur, parce que je joue encore un petit peu pour me maintenir en forme, le futsal et l'équipe nationale de beach m'ont beaucoup aidé, même dans mon évolution de joueur. Même si aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai vraiment évolué. Ça m'a beaucoup aidé pour beaucoup de choses pour le foot à 11. Et j'ai été aussi entraîneur de futsal et dans plusieurs de clubs, dont l'AS Blainville, dans lequel je coachais avant. On a intégré avec le club le futsal. Le beach est un peu plus compliqué avec la température ici au Canada, surtout l'hiver, mais c'est vrai que un peu à l'image de l'Ajax, le futsal est très dominant dans la culture ici au Canada, étant donné que on a 6 mois sous la neige, les terrains sont pas disponibles, les centres intérieurs, il y en a pas assez pour toutes les équipes et tous les clubs qu'il y a ici déjà au Québec et au Canada. Donc, c'est sûr que le futsal, autant dans les écoles que dans les clubs, a pris une place importante. Je pense qu'on ne l'utilise pas encore assez bien, mais c'est clair que oui, autant que ce soit technique que tactique dans la prise de décision, dans la recherche d'espace, le fait que ce soit très petit, que ça évite, les règles futsal aussi de ne pas pouvoir rejouer avec le gardien de but. Tout ça fait que c'est vraiment quelque chose qui est additionnel et qui devrait être intégré, je pense, au foot à 11. Et d'ailleurs, nous, au CF Montréal, pendant l'hiver, on en fait un petit peu. Et d'ailleurs, un bon exemple aussi, c'est Ben Yedder, hein, qui vient du monde du futsal avant d'aller signer à Toulouse et qui était un super joueur de futsal. Et aujourd'hui, on voit quand même que c'est un très bon joueur de foot à 11 et la carrière qu'il a, le nombre de buts qu'il marque encore cette année. Donc oui, c'est complémentaire. C'est clairement complémentaire au foot à 11. Mais il faut bien l'intégrer. Il faut bien l'intégrer à ta planification, à tout ça. Donc voilà, mais oui, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à additionner au foot à 11, clairement.
Là, on a fait un petit saut entre guillemets, joueur-éducateur, même si tu continues à jouer aussi pour te maintenir en forme, comme tu le disais. Quand est-ce que tu as commencé à développer ton intérêt pour le métier d'éducateur et d'entraîneur ? C'est venu très rapidement, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, est-ce que ça s'est fait naturellement, comment t'as basculé?
Et en fait, l'histoire, elle est vraiment drôle. Encore une fois, je rentre du Mexique et puis mes parents allaient bientôt rentrer en France parce que maintenant je vis, ma famille est retournée en France, moi je suis encore ici. Et mon père a joué jeune avec Philippe Montagnier qui est aujourd'hui à Toulouse. Et puis, je suis allé faire un stage. Il était à Boulogne-sur-Mer à ce moment-là. Je suis allé l'année où ils sont montés de Ligue 2 en Ligue 1. Et en début de saison, je suis allé là-bas faire un stage de joueur avec l'équipe réserve. Pas vraiment d'attente. C'était plus de me faire évaluer un peu en France que ce que mon niveau valait aussi. Je revenais du Mexique. Je voulais voir un petit peu et tout. Et puis, j'étais chez Philippe, en fait, à vivre pendant 2 semaines chez lui. Et c'est à le côtoyer, à aller à l'entraînement de l'équipe première avec lui. Ça m'a fait découvrir le monde du coaching et de ce qu'il faisait. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis les discussions qu'on avait ensemble, parce que je sais qu'il y avait quelques joueurs qui s'entraînaient avec l'équipe réserve où je jouais avec eux à ce moment-là. Et vraiment, ça a commencé là. Ça m'a vraiment plu ce qu'il faisait. Et du coup, ça a commencé ici. Au début, c'était plus entraîneur, plus pour avoir un peu d'argent de poche. Et puis vraiment, cette rencontre avec Philippe, ces partages que l'on a eus, je me suis vraiment lancé à passer mes diplômes. Et puis voilà, j'ai continué, j'ai pas arrêté. Et puis voilà comment c'est arrivé. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez drôle parce que c'était pas quelque chose de prémédité, quoi.
Comme mentor, c'est plutôt pas mal parce que Philippe Montagnier a une certaine idée du football. On se souvient évidemment de ce qu'il a fait à Boulogne, ensuite à Valenciennes où ça a très bien marché, à la Real Sociedad où ça a très bien marché. Est-ce que l'influence qu'il a eue pour te donner envie, quelque part, de devenir éducateur, a été jusqu'à l'influence sur des choses qu'il mettait en place, sur sa vision du football, etc. etc.
Au départ, non, parce que je n'avais pas encore cette maturité de ce que pouvait, de l'influence que pouvait avoir l'entraîneur. En le suivant, par les réseaux sociaux ou par des conversations qu'on avait de temps en temps, c'est sûr que c'est des entraîneurs qui me plaisent et qui me ressemblent, parce que c'est la vision que j'ai du foot aussi, et j'essaye d'entraîner aussi, moi, aujourd'hui, de la manière que j'aime le foot, et comment j'étais comme joueur aussi, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que l'entraîneur faisait. J'ai été influencé par beaucoup d'entraîneurs que j'ai eus, pas juste Philippe Montagnier, mais oui, c'est sûr que le fait d'avoir une équipe joueuse, de construire des idées bien précises, ont un petit peu influencé l'entraîneur que je suis aujourd'hui, mais c'est aussi le joueur que je suis qui fait que je suis l'entraîneur d'aujourd'hui, qui aime avoir le ballon, qui aime construire, qui n'a pas peur de prendre des risques en partant derrière. C'est le joueur que je suis aussi quand je joue sur un terrain. Donc c'est un mixte des deux.
C'est marrant l'influence que la période de joueur peut avoir sur les futurs entraîneurs. Enfin, c'est marrant, non, c'est quelque part, c'est logique. Je me souviens d'un entretien que j'avais eu avec Roberto De Zerbi. Et lui a été numéro 10 dans sa carrière. Alors, il n'a pas eu une carrière immense. C'est beaucoup passé en série B, un peu de série A. Il a été formé à Milan, etc. Et je lui ai posé en question, je lui ai dit, en fait, à Sassuolo, alors il venait de rejoindre le Shakhtar Donetsk quand je l'ai vu en interview. Je lui ai dit, à Sassuolo, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont un profil de 10 dans cette équipe-là, à différents postes. Et je lui ai dit, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est... une conséquence du joueur que vous avez été, c'est-à-dire bah, vous étiez un numéro 10, vous aimiez avoir le ballon, vous aimiez être créatif, etc. Et il m'avait dit, c'est totalement, il y a une vraie filiation entre ce que j'étais comme joueur, évidemment le profil technique et ce que j'aimais aussi faire et ne pas faire, comme tu viens justement de me le dire, aux entraînements, en match, avoir le ballon et pas passer son temps à courir sans ballon, etc. Et c'est vrai que parfois, on ne fait peut-être pas assez le lien entre ce que les joueurs sont dans leur carrière, etc., et comment ils deviennent entraîneurs et avec quelles idées, en fait. Généralement, il y a quand même une filiation entre les deux.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, en plus, c'est assez drôle parce que j'ai été formé 10 mois étant jeune, donc quelqu'un de très joueur aussi, aime avoir la balle. Mais quand je suis allé au Mexique, j'ai été redescendu en défense centrale. Ils aimaient beaucoup mon jeu long, ma vision, qui était un peu différente des joueurs du Mexique. Et en fait, je jouais défenseur comme je jouais 10. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes défenseurs, j'aime avoir des défenseurs qui n'ont pas peur de prendre des risques, qui sont joueurs. Bon, c'est un bien et un mal, parce qu'à la fin, même avec l'académie aujourd'hui, des fois, on est même un peu trop joueur, donc il faut savoir prendre les décisions au bon moment et reconnaître la situation. Mais oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi aussi, même s'il y a des choses qu'on est dans l'obligation de faire, je parle de préparation physique, je sais que beaucoup de joueurs ne sont pas adeptes de ça et n'aiment pas forcément cette période-là. Mais c'est vrai que sinon, moi, quand je construis mes exercices ou que je planifie mes saisons, j'essaie vraiment de me dire qu'est-ce que j'aimais comme joueur, comment j'aimais avoir la balle, qu'est-ce que j'aimais faire. Et je base beaucoup mes entraînements par rapport à ça.
Comme on parlait un peu d'influence, est-ce qu'il y a des entraîneurs actuels, ou même passés d'ailleurs, ça peut être aussi des entraîneurs un peu plus anciens, entre guillemets, qui entraînent plus forcément aujourd'hui, que tu suis particulièrement pour leur style de football, pour à la fois ce qu'ils montrent, ce que leur équipe montre sur le terrain, mais aussi ça peut être pour ce qu'ils disent du football, parce qu'on a des entraîneurs aujourd'hui qui... s'expriment de plus en plus, qui expriment leurs idées, qui parfois font des parallèles très intéressants entre le terrain, le football et la vie de manière générale, pour leur travail, je ne sais pas, avec les jeunes, justement, vu que tu es impliqué dans l'éducation des adolescents à Montréal. Est-ce qu'il y a des entraîneurs que tu aimes suivre de près aujourd'hui ?
Bon, sans surprise, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Klopp, parce que j'aime ce qu'il dégage, j'aime son côté humain. Je trouve que ça a l'air d'être une personne qui a l'air très, très proche de ses joueurs. Je trouve qu'aujourd'hui, le management a pris une place importante dans le foot. Et je pense que c'est une des personnes qui dégage ça. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime aussi le football et puis la manière qu'il a fait évoluer Liverpool. C'est un entraîneur que j'apprécie. Puis j'aime sa façon de dialoguer, les messages qu'il fait passer. C'est vraiment quelqu'un de bien. Après, des entraîneurs... qu'on a Bah, l'entraîneur de Lens, Frank Haine, ce que j'aime beaucoup, j'aime sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un de simple aussi. Et puis, deux autres entraîneurs aussi qui me pèsent beaucoup, c'est Nagelsmann, par aussi, je pense, sa carrière d'être un entraîneur très jeune, beaucoup d'ambition, très joueur, avec un football de transition. Donc, c'est très intéressant. Puis, j'aime bien aussi Roberto De Zerbi, qui était à Sassuolo, qui est un entraîneur je dirais, moi, je lui ressemble plus, mais j'aime beaucoup ce qu'ils essayent de mettre en place, leurs idées. Et puis, je pense que tous ces joueurs-là, c'est des entraîneurs, pardon, qui, dans le management, qui sont très proches de leurs joueurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a vraiment pris une place très importante. Je trouve que les équipes qui fonctionnent bien, c'est les entraîneurs aussi qui arrivent à tenir leur vestiaire, qui sont des managers. Et puis, on parle souvent de l'entraîneur du Real Madrid, qui est un grand monsieur, et puis c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il est en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment ces entraîneurs-là que j'apprécie beaucoup.
Dans ton rapport avec tes ados, c'est en U17, hein, donc tu travailles au CF Montréal. Quelle part de ton travail est allouée au management et comment tu t'es formé à ça ?
Je dirais que c'est pas le même management, parce que c'est sûr que ce qui n'est pas évident. Entre, par exemple, un Nagelsmann qui a des joueurs qui ont des contrats pro, qui c'est leur travail. Moi, j'ai des jeunes, donc il ne faut pas oublier qu'il faut garder une certaine distance avec les jeunes, parce qu'on n'est pas non plus des frères ou des pères. Donc, il faut garder une certaine distance, mais je pense que la mentalité des jeunes aujourd'hui a changé. Elle n'est plus la même. On ne coache plus comme on coachait à mon époque, à dire aux joueurs « c'est comme ça » et puis « tu te tais ». Et puis, tu dois travailler. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont quand même pas plus intelligents, mais ils réfléchissent beaucoup plus. Ils essayent de comprendre pourquoi. Ils veulent savoir pourquoi on doit faire ça, pourquoi on doit presser de cette manière-là, qu'est-ce que j'aurais dû faire là. Ils sont beaucoup plus intéressés par ce que demande le match, ce que demande l'exercice, ce que demande la tactique. Donc, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, le football est partout beaucoup médiatisé. La mentalité ici en Amérique du Nord, en plus, c'est quand même des acharnés de travail. Même des fois, c'est même un peu trop. Mais disons que je me suis un peu formé tout seul. Puis je me forme encore tout seul. Je suis encore assez jeune dans le métier et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais j'essaie d'avoir un rapport pas trop éloigné avec mes joueurs, parce que je pense vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la mentalité aujourd'hui est complètement différente. Donc, il ne faut pas non plus être... un coach qui ferme les portes à tout. Je suis très à l'écoute. J'aime discuter même avec les joueurs pour avoir leur avis, même s'ils ont 17 ans. J'aime savoir ce qu'ils pensent, comment ils ont le ressenti sur la séance, sur les matchs. Je pense que c'est important, le dialogue. On est vraiment aujourd'hui dans une période où l'échange, je crois, et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, échanger, partager. Donc, je le fais aussi avec mes distants, mais en gardant une certaine distance quand même, parce que on est dans une académie, l'objectif est de former des joueurs, mais aussi de les former comme personne. Donc il y a des valeurs à donner, et puis il faut des fois savoir prendre des décisions quand il se passe des choses, quoi.
Quelle différence notable tu vois entre, alors c'est un peu difficile parce qu'à l'époque tu avais sans doute pas le recul, mais entre quand tu étais jusqu'au début de l'adolescence en France, l'adolescence au Mexique et l'adolescence, les adolescents que tu as au Canada aujourd'hui. Au-delà même de la simple vision foot, où tu disais maintenant ils veulent comprendre, ils sont beaucoup plus intéressés, ils se posent plus de questions, etc. Est-ce qu'il y a d'autres différences culturelles qui t'ont marqué, je sais pas, dans le rapport qu'ils ont à l'autorité, dans, tu disais là, en Amérique du Nord, c'est des acharnés de travail etc. Tu me l'as dit aussi pour le Mexique. Est-ce que tu, si aujourd'hui tu as le recul nécessaire, est-ce que tu vois des différences fondamentales dans les différentes expériences que tu as connues, avec la difficulté qui réside dans le fait qu'en France, tu étais adolescent, tu n'étais pas, t'étais pas éducateur.
Et je pense que aujourd'hui, ce qui a changé, en tout cas, c'est difficile parce que j'ai vécu une bonne partie de mon adolescence en France. Et ici, j'ai du mal à comparer un petit peu des fois les adolescents en Europe et les adolescents en Amérique du Nord, qui sont un peu différents. Mais je dirais qu'il y a aussi la proximité, les médias ont fait que les réseaux sociaux font que les joueurs voient beaucoup aussi ce que font les pros. On a l'impression d'être très proche de eux, mais en même temps, on est très éloigné. Et du coup, on a, les joueurs, je le vois juste par le travail ici en Amérique du Nord, les joueurs mettent beaucoup d'importance sur la musculation. Et c'est quelque chose qu'en France, par exemple, à mon âge, j'avais quasi aucune connaissance par rapport à ça. Et aujourd'hui, avec tout ce qui les entoure, les coachs privés, les vidéos qu'on voit sur YouTube, ils sont très portés sur à vouloir faire la même chose parce que ils voient Ronaldo faire ça, ils voient des vedettes faire ça, donc ils sont portés là-dessus. Et après, je pense aussi que aujourd'hui, ce qui influence beaucoup, c'est que les joueurs regardent les matchs et puis les matchs sont analysés, que ce soit à la mi-temps, que ce soit les émissions, les podcasts, on analyse beaucoup et la tactique a pris une place importante dans le foot. Et je trouve que les joueurs, quand tu as des conversations avec eux sur un match, elle est poussée. Alors que dans mon temps, je n'avais pas cette analyse à la fin d'un match quand j'avais leur âge à 16 ans. Donc, il y a ce rapport-là aussi où quand tu arrives à l'entraînement, ils le voient, quand ils regardent un Liverpool City, ils voient l'importance de la tactique parce qu'autour d'eux, on en parle beaucoup. Donc, ils arrivent à l'entraînement et c'est un peu la même chose. Ils veulent comprendre, ils veulent vraiment comprendre pourquoi je dois faire cette course-là, pourquoi. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'à la fin, ça reste du partage et je préfère quelqu'un qui s'interroge, que ce soit d'une manière correcte, mais qui s'interroge sans remettre en question les choix de l'entraîneur, mais qui s'interroge sur le pourquoi et de comprendre exactement de la manière. Après, c'est sûr qu'il faut, mettre le cadre malgré tout et puis que ça ne dégénère pas et que l'entraînement, ce soit que des questions, quoi. Ce serait le problème, mais moi, je trouve quand même ça très intéressant que les joueurs aujourd'hui, je vais dire, on dirait qu'ils ont un QI foot au-dessus de, par exemple, la période où moi, j'étais adolescent et avait leur âge, quoi. Après, il y a toute la partie aussi, je trouve aussi toute la préparation invisible aussi. Je sais que c'est quelque chose qui est toute la science. La science a pris une part importante du foot, que ce soit dans la préparation physique, mais l'alimentation, dans le sommeil et tout ça. Et puis, c'est quelque chose aussi que les joueurs, aujourd'hui, je vois, moi, mes joueurs U17, bon, c'est sûr que de temps en temps, il faut remettre le cadre et il faut sévir un petit peu. Mais moi, à mon époque, je n'avais pas cette, je dirais pas que cette maturité, mais je ne pensais pas que ça pouvait avoir autant d'influence sur tes performances. C'est vrai que c'est plus mon père qui me disait, il faut bien manger, il faut bien dormir. Mais voilà, c'était plus des paroles comme si c'était des paroles que son père lui avait données. Et puis, de génération en génération, on dit. Aujourd'hui, on sait pourquoi, la science a expliqué pourquoi, il faut dormir ça, comme ça, il faut manger ça, il faut s'entraîner de cette manière-là. Donc c'est sûr que le sport a évolué et du coup, les jeunes ont beaucoup plus d'informations que dans mon temps, par exemple. Et pourtant, on parle d'une quinzaine d'années, mais je trouve que vraiment, la science a pris une part importante du foot qui influence nos jeunes aujourd'hui, je trouve.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien, le nombre de séances d'entraînement que vous faites par semaine, leur durée, l'accent que tu peux porter sur différents aspects du jeu, ce que tu leur fais travailler en priorité. Raconte-nous un peu ton quotidien d'éducateur au CF Montréal.
Bah moi, tous les matins, donc, c'est bureau à Montréal. Et puis, les joueurs sont à l'école le matin et puis ils sont en sport-études. Donc, tous les après-midi, à 13h30, on est sur le terrain avec eux. Ils arrivent du sport-études. Donc, on s'entraîne du lundi au vendredi. On a le terrain pendant 1h30, 2h. Après, ça varie, bien sûr, en fonction de la charge de travail. Et puis, les matchs le week-end. Et puis là, bon, il y a beaucoup de matchs parce que les déplacements sont loin. Donc, on fait des gros déplacements. Après, pour ce qui est de ce qu'on travaille, disons que on a vraiment toute une formation qui a été mise en place dans le temps. C'était Philippe Lafroy qui avait mis en place avec tout son staff, dont Wilfried Nancy, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe première. Et puis, on est sur les mêmes, on travaille encore la même chose. Donc, on est vraiment sur travailler des thèmes, pas forcément qu'on a besoin de travailler ou sur lesquels on a échoué le week-end, par exemple pendant un match. On est vraiment sur un micro-cycle qu'on tient, on essaye de tenir tout au long de l'année. Mais on est des équipes à Montréal qui sont, je trouve, un peu différentes du reste des équipes nord-américaines. On a des joueurs, des équipes qui essayent de jouer. On essaye de travailler aussi bien sur tout ce qui est transition, parce qu'aujourd'hui, le foot, la transition a pris une part importante aussi. Mais voilà, on essaie de travailler un peu tout. Mais c'est vrai qu'on met beaucoup d'importance sur l'équipe avec le ballon, comment utiliser le ballon, repartir de derrière. On est des équipes assez joueuses au CF de Montréal. Ce qui nous est un peu défavorable de temps en temps parce que, à la différence peut-être de d'autres clubs américains, on a un jeu un peu moins direct. Mais on travaille un peu tous les thèmes. On n'est pas forcément sur les résultats et puis à devoir travailler ce qui n'a pas été le week-end. On essaye de tenir notre ligne directrice tout au long de l'année et de travailler tous les aspects pour amener les joueurs avec un maximum de bagages au plus haut niveau s'ils y arrivent.
Donc il y a bien de la part du club une volonté de mettre en place une identité collective commune à toutes les équipes du centre de formation.
Oui, exactement. Après, on choisit le système que l'on veut. Mais oui, c'est clair que nos joueurs ont une certaine identité. Et d'ailleurs, c'est quand ils vont en équipe nationale canadienne, ils voient la différence, les entraîneurs, quand par exemple, il y a des joueurs qui arrivent de Toronto et de Montréal. Il y a vraiment une différence entre les joueurs parce que c'est une culture différente. Bien sûr, nous sommes francophones, on est la seule province francophone. Donc oui, il y a une identité qui a été créée il y a quelques années et puis qui est maintenue aujourd'hui et puis qu'on essaye d'installer. Et puis on a la chance d'avoir Wilfried Nancy qui est un ancien entraîneur de l'Académie, qui aujourd'hui est avec l'équipe première, a travaillé à l'Académie et il s'est construit à l'Académie, je pense. Et aujourd'hui, on retrouve un petit peu ce qui... dans lequel il a été bercé à l'académie, comme on joue l'équipe première aujourd'hui. Donc, il y a un fil conducteur. Tout à fait.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me suis beaucoup documenté avant cet épisode et on voit que le CF Montréal mise beaucoup sur son académie. Il y a des témoins assez importants, des marqueurs, la section sport-études, le maillage territorial... pour aider à la formation, détecter tous les talents de la région à travers ce qui est appelé, et que j'ai découvert sur le site de Montréal, le centre d'identification et de perfectionnement. Il y a les écoles de soccer, il y a d'autres initiatives. Et on a l'impression que, alors c'est évidemment très propre au CF Montréal, tu en as parlé, mais quelque part c'est aussi une direction, presque une directive de la MLS de manière générale. En tout cas, c'est ce que je ressens de l'extérieur, c'est-à-dire on a connu une période où la MLS cherchait essentiellement à attirer des stars pour se faire connaître médiatiquement. Aujourd'hui, on est plus sur développer les footballeurs de demain, avec, on sait qu'il y a eu des échanges très réguliers, notamment... ou des études sur la formation à la française, il y a eu des stages à l'étranger. Je lisais qu'il y a un éducateur de Montréal qui était allé faire un stage à l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas, par exemple. Tu ressens ce changement de stratégie d'une manière globale au niveau de la Ligue nord-américaine, d'abord, et ensuite cet accent très important au CF Montréal sur la politique de formation.
Ouais, tout à fait. Je pense que comme j'ai un peu... on en a un petit peu parlé avant l'émission. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des clubs qui... c'est des marchés un peu. C'est un peu style le hockey ou le basket avec des franchises. Et il y a des marchés qui bien sûr... là, je prends l'exemple de l'Inter de Miami de Beckham ou les Galaxies qui attirent parce qu'ils attirent des joueurs d'Europe, on va dire, qui sont plus en fin de carrière. Et puis, il y a aussi des villes comme Montréal, comme Philadelphie, comme Dallas... qui ont compris, je pense, que on n'a pas un marché pour attirer ces stars-là. On n'a peut-être pas aussi les moyens, ça, c'est pas à moi de le dire. Et du coup, ils se concentrent beaucoup plus sur la formation de jeunes. Et on le voit, de toute manière, dans les dernières années, énormément de joueurs nord-américains sont dans des clubs aujourd'hui européens assez connus. Et du coup, c'est vrai que Montréal... avait, pendant un moment donné, attiré des joueurs quand même de renom. On parle de Drogba, de Nesta, de Divayo. Et puis, c'est vrai qu'on dirait que depuis 2, 3, 4 ans, on s'est un peu tourné sur justement les jeunes joueurs, la formation, l'académie, parce qu'on s'est rendu compte que les résultats aussi allaient peut-être venir comme ça. Et puis, après, bien sûr, ça vient aussi des propriétaires et de la vision du club, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que je trouve que de plus en plus, même les grosses institutions, les gros clubs, même Los Angeles, commencent à attirer plus les jeunes joueurs et à faire, à mettre beaucoup d'importance sur la formation de leurs jeunes, parce que ça vaut le coup aussi, parce que c'est un marché qui intéresse, que ce soit au niveau des entraîneurs. Il y a de plus en plus d'Européens, il y a beaucoup d'étrangers. Et puis, bien évidemment, il y a beaucoup de qualité. Et c'est vrai que je pense que les clubs s'en sont rendus compte qu'il y a beaucoup de cultures, que ce soit autant aux États-Unis qu'au Canada, il y a beaucoup d'immigration. Donc, on se rend compte qu'il y a, il y a vraiment des très, très bons joueurs. Donc, c'est pour ça que les académies commencent à vraiment investir dans leurs académies, dans les projets, comme tu l'as dit, du CF Montréal, avec des programmes externes pour identifier les jeunes de demain. Et c'est vrai qu'il y a vraiment eu, je trouve, un virage à 90 degrés là, depuis 2-3 ans. Et en plus, quand on voit des clubs, par exemple, comme autant le CF Montréal avec les résultats depuis 2 ans, que ce soit aussi Philadelphie, Dallas, les résultats, en plus de former des jeunes, les résultats sont là. Donc, c'est intéressant. C'est ça qui montre que on peut travailler avec les jeunes et puis que tu peux aussi avoir des résultats, parce qu'il ne faut pas se cacher que les résultats ont une place importante quand on arrive dans l'équipe première. Donc, c'est vrai que la formation des jeunes et puis d'investir dans les académies, dans la communauté, est devenue aussi une très grosse priorité des clubs MLS, dont le CF Montréal.
Je voulais que tu nous parles aussi d'une compétition qui a eu lieu il y a quelques semaines, la Generation Adidas Cup, à laquelle tu as participé avec les U17 du club. J'ai regardé plusieurs morceaux de match, puisqu'on avait la chance que ça soit diffusé par la MLS sur Twitch. Déjà, je trouve que c'est un signe d'ouverture qui est assez intéressant. Ça se déroulait à Dallas, au Texas. Pour le présenter rapidement aux auditeurs et auditrices, c'est une compétition où il y avait une énorme compétition où il y avait des U15 et des U17. Tu m'arrêtes si je me trompe. Il y avait donc toutes les franchises de MLS représentées. Il y avait aussi des équipes, je crois qu'ils appelaient ça les équipes invitées, donc des équipes d'autres continents. Donc on avait, alors de mémoire, je vais faire comme ça, il y avait Porto, alors pas sur les deux catégories, hein, parce qu'il y avait parfois une équipe engagée en U17, mais pas en U15, ou inversement d'ailleurs, mais il y avait Manchester United, il y avait Porto, il y avait la Roma, il y avait Valence, donc ça pourrait, pour ce que je me souviens, en Europe. Après, il y avait du River Plate, je crois qu'il y avait un invité mexicain, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, il y avait plusieurs mexicains. Ouais.
Voilà, donc il y avait pas mal d'invités aussi, et donc de continents différents. Ça se déroulait dans un complexe absolument XXL, avec des fois 10 matchs en même temps, c'était hyper impressionnant. Je voulais que tu nous parles un peu de ton expérience lors de ce tournoi-là, parce que toi, tu y étais avec les U17. Comment vous avez géré ça? Quelle expérience toi tu en retires à titre personnel? Quelle expérience tes gamins en retirent de cet événement-là? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette immense compétition?
Ah, c'est vrai que c'est vraiment incroyable, pour revenir à ce que tu dis. Déjà, rien que quand tu arrives et que tu mets les pieds dans le complexe, on sait que les États-Unis, c'est un grand pays, ils aiment faire les choses en grand, et la preuve avec des endroits comme on était, avec une trentaine de terrains en herbe, puis de qualité en plus. Donc déjà, ça, c'était vraiment impressionnant. Après, c'était la première année que moi, j'étais à la GIA Cup. C'est vraiment une expérience incroyable, autant comme entraîneur, parce que tu peux discuter avec d'autres éducateurs, que ce soit pour les jeunes aussi, de pouvoir voir ou même se frotter à des clubs comme Manchester, comme la Roma. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir le luxe de pouvoir les voir jouer ou de pouvoir les affronter. Et du coup, ça reste une expérience incroyable, parce que y a des cultures qui se rencontrent, et puis surtout des styles de jeu complètement différents, parce qu'on sait que le style nord-américain n'est pas le même que le style italien ou anglais ou français ou portugais ou mexicain. Donc ça permet aux jeunes de pouvoir voir un peu le football, comment il se joue dans un autre pays. Et puis après, ce qui m'a impressionné, moi, je trouve, c'est justement, on parle de ça, de l'évolution de la MLS et des académies. C'est que je trouve vraiment qu'il y a de moins en moins d'écart entre les grosses cylindrées, je vais dire, d'Europe, comme par exemple Manchester. On les a vus jouer contre Los Angeles ou d'autres clubs MLS, et on voit que l'écart, il n'est plus ce qu'il était avant. Les clubs MLS ont vraiment progressé, donc c'est ce qui rend les choses intéressantes et ce qui prouve que le travail se fait correctement aussi en Amérique du Nord, et puis qu'on est sur la bonne voie. Donc c'est vraiment un événement incroyable, Et vraiment, c'est ouais, il faut le vivre vraiment parce que tout est extraordinaire. Et puis, on a eu la chance de pouvoir voir la finale après qui était entre Tigres, le club mexicain, et puis Seattle dans le stade de Dallas. Donc, ouais, c'est un événement incroyable. Et voilà. Et puis moi, après, au niveau personnel, c'était vraiment la première fois que je vivais un tournoi en tant qu'éducateur, entraîneur de ce niveau-là, de pouvoir jouer la Roma. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas les résultats souhaités. Mais je pense qu'il faut retenir aussi bon, le contenu qui a été très intéressant. Même contre la Roma, on a eu un pourcentage de possession qui est quand même très intéressant. Mais c'est vrai que c'est là où bah, tu peux faire comprendre à tes joueurs que le football, quand tu joues une équipe comme la Roma, ça se joue sur des détails. Et c'est peut-être ce petit côté-là encore qui manque à nos joueurs à Montréal, c'est les détails de savoir gérer les moments du match. Donc c'est vraiment, pour moi, un moment extraordinaire de pouvoir jouer ces équipes-là, et puis surtout que les joueurs puissent vivre ces expériences de cette manière-là et puis découvrir ce qu'est le football d'un autre pays aussi, parce que c'est vraiment différent. On a des cultures qui sont complètement différentes et des styles de jeu différents. Donc voilà, donc c'était vraiment un moment, c'était un 10 jours extraordinaire.
Quand vous avez joué la Roma, c'était les équipes qui n'étaient pas qualifiées en play-off, c'est ça? Enfin, pour le tableau final?
Exact. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on commence avec un groupe de 4. Et puis, le premier se qualifie et les autres passent dans un espèce de showcase où là, on te remet dans un groupe de 4 et c'est là que j'avais la Roma. Mais dans le premier groupe, on a joué Tigres aussi, l'équipe mexicaine qui s'est rendue en finale. Et ça a été complètement différent, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu rencontres une équipe de Tigres qui joue d'une certaine manière et puis le lendemain, tu joues la Roma qui est un autre style de jeu. Donc, c'est ça qui est incroyable pour les jeunes, parce que tu ne peux pas jouer de la même manière, tu dois t'adapter aussi, et c'est intéressant.
Et j'avais vu un match des Tigres qui m'avait carrément impressionné. J'avais vu un match de la Roma, donc ça c'était dans la première, enfin dans la phase de groupe initiale, où ils avaient explosé contre l'Inter Miami, physiquement. Physiquement, il y avait une différence athlétique qui était, mais incroyable, c'est-à-dire que c'était même pas, enfin, il y avait des joueurs qui, enfin, il y avait aucun joueur de la Roma qui était plus grand qu'un joueur de l'Inter Miami quasiment, et puis même dans le volume athlétique des joueurs, c'était extrêmement différent. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire montrer à ces ados-là qu'il y a des styles de football totalement différents, et ce qui est enrichissant pour vous en rencontrant des nations sud-américaines et européennes, l'est aussi pour des nations européennes, c'est-à-dire aller se confronter à un style de football totalement différent aussi, plus physique, peut-être plus vertical, selon... Alors, tout le monde ne joue pas pareil aux États-Unis, donc on va pas faire de... Enfin, je ne vais pas faire de généralité. Mais voilà, ces types de tournois-là sont quand même hyper enrichissants à la fois pour les éducateurs et aussi pour les adolescents.
Ouais, tout à fait. Et puis c'est ce que je disais quand moi, je suis arrivé au Canada. J'étais pas habitué à voir cette... tu parlais d'intensité physique, et c'est vrai que en Amérique du Nord, et encore plus aux États-Unis, je trouve. Et nous, c'est d'ailleurs un problème que l'on a, c'est qu'aux États-Unis, c'est vraiment des beaux bébés, je vais dire ça comme ça. Ils sont des athlètes, mais vraiment, qui font de la muscu, qui sont monstrueux physiquement. Et même nous, à Montréal, où on est, on va dire, on va se rapprocher un peu du style européen, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'Européens à Montréal, ben, des fois, on n'arrive pas à compétitionner justement avec cet impact physique. Donc, c'est vraiment, on doit adapter notre style de jeu à ça. Mais c'est vrai qu'on le voyait, la Roma, ils n'étaient pas habitués, les défenseurs, à avoir deux attaquants qui, pendant 90 minutes, ne font que les presser et les dérangent à la sortie de derrière. Donc, c'est un style qu'on ne retrouve pas forcément en Europe. Et même moi, quand j'étais jeune, ça m'avait vraiment impressionné parce que je n'étais pas habitué à ça. On est plus habitué à des équipes un peu en place, qui sont plus patientes, des blocs médians, voire bas. Et là, quand tu arrives et que tu as deux, trois beaux bébés qui font que de presser 90 minutes, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose.
On a le sentiment en plus que la MLS fait tout pour mettre en avant ces tournois de jeunes. Il y en a eu un autre dont on a parlé rapidement avant de commencer l'enregistrement, qui s'est déroulé non loin de Washington. Il y a quand même une couverture des événements. La Didas Cup, il y avait quand même la retransmission sur Twitch et je crois aussi sur YouTube de certains matchs. Alors, pas de tous les matchs, mais il y avait quand même chaque jour une belle programmation de 3 ou 4 matchs disponibles. Sur le site de la MLS, il y a quand même des onglets spéciaux créés, mis en avant pour que les gens suivent un petit peu le développement des joueurs. On a l'impression vraiment que la MLS a pris cette direction-là, et qu'elle a décidé d'effacer le côté clinquant qu'elle avait voulu faire sur d'un point de vue médiatique, mais c'était peut-être calculé en se disant c'est la phase 1, parce que quelque part on a aussi besoin pour attirer des gens, pour attirer des spectateurs, pour attirer l'intérêt aussi des jeunes Américains pour le football, on a peut-être besoin de faire venir des grandes stars qui vont nous aider à médiatiser tout ça, à faire parler de nous, à présenter, etc. Et puis là, la phase 2, c'est essayer de trouver quelque chose de plus durable, en fait. De plus dire, on n'est plus là simplement pour faire du coup par coup à chaque mercato, et etc. Et d'ailleurs, on le voit même, là, je parle de formation, mais même sur l'achat des joueurs, en fait, on voit que maintenant, ça achète beaucoup de joueurs de 19, 20, 21, 22 ans qui viennent d'Amérique du Sud pour beaucoup et qui viennent se développer en Amérique du Nord avant, éventuellement, si ça se passe bien, s'ils ont envie aussi de rejoindre l'Europe.
Ouais, tout à fait. Mais en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure où des académies ont mis de l'avant le projet académie, le projet formation de jeunes joueurs. Et du coup, ouais, c'est exactement ça. Donc, à la fin, c'est vraiment la MLS a décidé d'aller dans la direction que l'académie était importante. Donc, c'est pour ça, comme tu disais, qu'il y a beaucoup plus de visibilité. Mais c'est vrai que oui, c'est un mixte. Je pense que les premières années, je suis d'accord avec toi, je crois que ça a permis de mettre un peu plus de lumière sur la MLS, de montrer un peu plus d'intérêt. Ah, y a une question aussi, je pense, argent, de trouver des sponsors, d'attirer des gens, des investissements, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve un mixte, en fait. Il y a toujours des joueurs. Et puis c'est étonnant parce que des Carlos Vela sont arrivés quand même plus jeunes que, par exemple, un Insigne qui aujourd'hui va arriver à Toronto. Donc il y a aussi le projet, des fois, d'aller chercher des jeunes joueurs aussi en Europe pour investir, pour aider le club, pour amener une certaine expérience Europe aussi, une culture, on va dire, de la gagne, même si je pense qu'elle est déjà intégrée dans la MLS. Mais c'est vrai que je crois que la MLS est vraiment sur la bonne voie. Mais ce qui est intéressant, c'est, je crois aussi, et moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est le mixte qu'il y a aussi dans ça, dans le choix que le club fait. Est-ce que c'est d'investir dans des gros noms ou est-ce que c'est d'investir dans l'académie ? Donc, c'est vraiment là où on peut voir la différence entre certains clubs. Et puis, il y en a qui font aussi les deux. Par exemple, Toronto, ils ont Insigne et puis ils mettent beaucoup de jeunes vers l'avant. Nous, à Montréal, c'est vraiment les jeunes qui sont mis vers l'avant. Donc voilà, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de voir le changement que la MLS peut avoir. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment en train de grossir, que ce soit les jeunes, les entraîneurs aussi qui viennent dans les académies. On a beaucoup d'Européens, ça attire beaucoup. Puis il faut pas oublier, il y a tout le système aussi universitaire qui a une place importante dans MLS parce que c'est comme au basket et au hockey, il y a un draft qui a lieu tous les ans. Donc c'est là où on voit aussi l'importance que les jeunes ont dans le projet MLS.
Ce qui fait dire d'ailleurs à beaucoup d'observateurs que le futur du football, en fait, il sera limite plus en Europe, mais en Amérique du Nord.
L'avenir nous le dira, j'espère. Je serai à la bonne place. Mais ouais, je pense que, je ne sais pas, c'est difficile de se projeter là-dessus parce que c'est vraiment des cultures aussi un peu différentes. En Europe, on ne parle pas de franchise, alors qu'ici, c'est vraiment des franchises. Donc, j'ai hâte de voir plus l'évolution et où est-ce que ça va mener. Mais moi, j'espère que les deux seront toujours importantes et que la MLS prendra plus de place. Et surtout, j'espère un jour voir la MLS compétitionner contre des équipes européennes parce que c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, quand une équipe européenne vient par exemple en stage l'été, on voit encore qu'il y a une certaine différence entre les joueurs MLS et les joueurs européens. Mais je pense qu'il y a un écart avec les grosses cylindrées d'Europe. Mais si on reste en Ligue 1, je pense que il y a des équipes en MLS aujourd'hui qui pourraient finir dans le top 10 de Ligue 1, je crois. Moi.
Puisque tu as parlé, on parlait beaucoup de la formation au CF Montréal, on a évoqué Toronto rapidement. Il y a trois noms, moi, que je suis d'un petit peu près, que j'essaie de regarder assez régulièrement. Alors, pas forcément sur des matchs en direct, parce que les horaires ne sont pas toujours très simples quand on est en Europe, mais au moins de regarder des extraits vidéo sur des plateformes spécialisées, etc. Mais à Montréal, moi, j'aime beaucoup Ismaël Koné. Je pense que je ne suis pas le seul qui émerge dans l'équipe première. À Toronto, il y a évidemment Jadon Nelson et aussi Marshall Roty qui est blessé là, depuis le début de la saison quasiment, mais qui sont deux jeunes. Ça, on parle de jeunes qui ont 19 et enfin qui ont moins de 20 ans en fait tous. C'est pour montrer aussi que au Canada, on fait les choses bien. Le Canada s'est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Il y a le plan de développement de la MLS. Il y a des sources d'inspiration en Europe, plus l'adaptation à ce qu'est le continent nord-américain, etc. Il y a quand même beaucoup de voyants qui sont au vert et qui vont dans le sens d'une progression constante du football en Amérique du Nord. Et est-ce que ce développement-là a pour conséquence un intérêt qui s'accroît aussi dans le grand public? Et aussi, est-ce que tu le ressens sur tes jeunes, sur leur intérêt du football? Est-ce que c'est tous des mordus de football, que ça soit... Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui regardent le football européen, mais aussi pour regarder la MLS. Est-ce que ça se ressent sur les demandes d'inscription dans les clubs? Est-ce que tu ressens, parce que la culture est quand même très axée autour des sports US de base, entre guillemets, plus classiques, plus traditionnels que le soccer, mais est-ce que toi tu vois ce développement sur le terrain se répercuter aussi dans l'opinion publique, le grand public, les jeunes, etc.?
Ouais, tout à fait. Juste déjà en termes d'inscription, même si le sport national, on dit souvent que le sport national est le hockey au Canada, il y a beaucoup plus d'inscriptions et beaucoup plus d'inscriptions au foot qu'au hockey. Donc déjà, c'est ça depuis quelques années. Donc on voit déjà que c'est une bonne chose. Ensuite, c'est vrai que, oui, comme tu l'as dit, les jeunes sont attirés par l'Europe. C'est bien évident parce qu'aujourd'hui, c'est là que les plus grands noms sont et les plus grands clubs sont. Donc ça attire beaucoup. Et puis la visibilité est quand même aujourd'hui très facile. Les matchs sont accessibles avec Internet, avec les différents programmes que l'on connaît. Mais c'est vrai que on voit aussi quand même, il suffit de regarder, comme tu l'as dit, les résultats de l'équipe nationale canadienne qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part du public canadien parce qu'il y a des cultures aussi différentes. Et puis, il ne faut pas se cacher, la carrière d'Alfonso Davies, de Jonathan Davies, de Larine, qui est au Beşiktaş, ça attire aussi les jeunes. Ils se disent que ça peut être moi demain. Ça met le Canada sur la carte aussi du foot. Et quand on voit les carrières qu'ils ont, ça aide beaucoup. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelques années, les joueurs avaient l'ambition de tout de suite partir en Europe pour aller dans des clubs, alors qu'aujourd'hui, ils se disent je peux passer par une académie MLS, comme par exemple Alfonso Davies a fait. Alors qu'avant, les jeunes avaient cette idée de dire moi, je veux tout de suite aller en Europe. Puis ils se rendent compte après, ils vont faire des essais là-bas, que le fossé est énorme. Et aujourd'hui, le fossé, il est moins gros, mais il est quand même différent parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs aussi en Europe, on ne va pas se cacher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont changé un peu leur fusil d'épaule. Ils se disent aujourd'hui, je peux peut-être aller en Europe, mais ça commencera peut-être d'abord par le système nord-américain qui est la MLS. Je sais aussi que le Canada, ça fait maintenant 3 ans qu'ils ont créé leur ligue canadienne qui s'appelle la CPL, qui est quelque chose de top pour les jeunes parce qu'ils se disent il n'y a pas juste Toronto, Vancouver et Montréal, parce que ça reste quand même une problématique d'avoir seulement 3 pays professionnels dans la MLS au Canada. Aujourd'hui, on a une ligue professionnelle canadienne qui permet de mettre les joueurs aussi sur la carte, de proposer un projet si le projet MLS n'est pas tout de suite prêt pour toi. Donc, il y a vraiment, commence à y avoir différentes portes avec différents trajets. Mais c'est vrai que oui, moi, je le vois entre mon arrivée où les matchs étaient à peine diffusés à la télé de l'équipe nationale, je connaissais à peine les noms. Aujourd'hui, des fois, je suis quasiment même presque plus supporter de l'équipe canadienne que de l'équipe française. C'est aussi peut-être aussi avec le changement, l'identité que l'équipe a aujourd'hui avec tous les joueurs que l'équipe canadienne a. C'est une équipe qui est très joueuse, qui est très, très, vraiment un peu comme le CF Montréal qui, depuis 2-3 ans, est une équipe vraiment plaisante à voir jouer et les résultats suivent en plus. Mais l'équipe nationale, c'est un peu la même chose aussi. Elle est vraiment très intéressante à voir jouer, beaucoup d'ambition avec un entraîneur, John Herdman, qui est vraiment très intéressant, qui a une identité, une vision du foot qui me passionne, moi, que je trouve très débordante. Donc ouais, le foot au Canada, il est vraiment, c'est ça, c'est vraiment transformé. et on voit qu'il prend beaucoup d'ampleur. Et je suis content d'ailleurs qu'on puisse aller à la Coupe du Monde au Qatar, parce que ça montre que le pays est sur la bonne voie, quoi. Parce que c'est vrai que les États-Unis ont l'habitude de faire la Coupe du Monde, mais voilà, quand les États-Unis, c'est pas le Canada, et on voit la différence. Nous, quand on voyage l'équipe de Montréal ou même Toronto ou Vancouver, on n'est pas traité de la même manière, on est un peu regardé de travers, encore plus nous parce que nous sommes francophones. Donc on se voit pas comme des Américains, on est vraiment canadiens, fiers, et du coup, bah, c'est vrai qu'on est content de voir enfin l'équipe canadienne rivaliser en plus avec l'équipe américaine, et puis de montrer ce visage-là, et c'est top pour le pays et pour la fédération canadienne de pouvoir aller à la Coupe du Monde. Ça va être un atout important.
Si on devait résumer notre échange qu'on vient d'avoir pour convaincre un jeune éducateur qui hésite ou qui a envie de tenter sa chance, alors je vais dire au Canada ou en Amérique du Nord de manière générale, ça peut être aux États-Unis. Qu'est-ce que tu lui dirais, soit pour le convaincre ou sur ce qu'il va trouver en arrivant pour un poste d'éducateur ?
Moi, ce que je trouve qu'il y a de différent un petit peu d'Europe, peut-être je me trompe, mais c'est vrai qu'en Europe, dans le coaching, à un moment donné, moi-même, je me suis demandé si je ne voulais pas rentrer en France aussi, bon, déjà de un pour être plus proche de ma famille, mais aussi parce que je voulais peut-être entraîner là-bas. Puis je me suis rendu compte que aujourd'hui, je suis entraîneur dans une académie et en France, j'aurais peut-être pas ce luxe-là, parce qu'on sait que bah, c'est souvent les ex-joueurs professionnels qui ont ces métiers-là. Et je trouve qu'ici, on a la chance d'avoir une certaine, je ne dis pas qu'elle n'est pas en Europe, mais une certaine ouverture d'esprit, et on aime donner la chance à des jeunes ou à des gens qui ont l'ambition de faire quelque chose, qui ont la tête sur les épaules. Et c'est vrai que tu regardes dans les académies privées, il n'y a pas des noms, des très grands noms. Il y en a quelques-uns. Luxin, qui est par exemple à Dallas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aime faire confiance aux jeunes. On aime faire confiance à des gens qui ont l'ambition de faire quelque chose. Et avec du travail et puis avec de la patience, on peut réaliser et puis faire des choses et avoir un projet qui peut être intéressant ici. Donc, je dirais que c'est ça. C'est sur cette possibilité, cette ouverture de pouvoir avoir un projet intéressant ici.
Tu m'y as fait penser là en les citant, les académies privées, on en a parlé avant d'enregistrer, moi j'ignorais l'ampleur que ça a en fait, puisque toi tu reviens d'un tournoi à Washington qui mêlait les équipes de jeunes des franchises de MLS à des académies privées sur un tournoi, et tu me disais qu'il y avait des académies privées qui étaient vraiment d'un très bon niveau.
Ouais, parce que à la fin, en fait, au Canada, on n'en a pas vraiment d'académie privée. C'est vraiment aux États-Unis qu'il y a ça. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, c'est assez peuplé. Donc, logiquement, il n'y a pas de la place pour tout le monde dans les académies MLS. Donc, oui, il y a des académies privées. Après, le point un peu négatif de ça, c'est que dans les académies privées, les jeunes doivent payer. Mais c'est vrai que, ouais, il y a les académies. Moi, j'ai été impressionné. Il y a des académies qui font vraiment du très bon travail aussi et qui compétitionnent avec les équipes MLS. Après, il faut comprendre aussi que lors de ce tournoi, il y a aussi des équipes MLS. Alors, faut faire attention. Oui, on voit par exemple le titre d'une équipe MLS, mais des fois, il y a des joueurs aussi, des académies qui font beaucoup de surclassements, donc ne viennent pas avec leur équipe pleine, parce que il y a des jeunes qui jouent par exemple en U19 ou qui sont avec l'équipe 2. Et ça, il y a une grosse ouverture d'esprit avec le surclassement ici, où on n'a pas peur de mettre, comme on l'a dit, les jeunes de l'avant et de leur donner d'accélérer leur processus pour gagner du temps. Donc, des fois, il y a des matchs qui, oui, l'académie privée gagne le match ou un résultat intéressant, mais il faut tout prendre en considération. Mais voilà, oui, par contre, c'est clair qu'il y a des très bons joueurs partout. Et puis, c'est un grand pays, les États-Unis. C'est pas facile pour eux, d'ailleurs, de gérer tout ça. Mais c'est, moi, je trouve ça positif. Ça permet aussi de mettre la pression un peu sur les académies MLS, à devoir faire un bon travail aussi, quoi.
Tu parlais de surclassement. C'est vrai que ça m'a... Mais même... alors, surclassement dans les équipes de jeunes, mais même, je trouve que le nombre de jeunes ados qui débutent en MLS, ça veut pas dire qu'ils deviennent titulaires, mais qui débutent en MLS, dernièrement, je trouve qu'on voit de plus en plus de joueurs de 16 ans, 17 ans. on a même de 15 ans qui ont débuté. Il y en a un dont j'ai oublié le nom qui joue à Seattle. Je crois qu'il a débuté à 15 ans. Je parlais tout à l'heure de Jaden Nelson. Je crois qu'il a commencé à 16 ou 17 ans. On a Paxton Aronson, le frère de Brandon Aronson, dont on a parlé avant de commencer à enregistrer. Il a dû commencer à 16 ou 17 ans. Caden Clark, il a commencé à 16 ans. Il y a Moses Niemann qui a commencé à 16 ou 17 ans. Enfin, j'en cite que quelques-uns, mais il y a quand même beaucoup de joueurs de 16 et 17 ans qui maintenant arrivent sans aucun problème, dans les équipes premières et qui commencent à gratter des 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes.
Non, mais c'est ça. Mais nous, à Montréal, ça a été un peu la même chose avec des Ismaël Koné, avec le petit Rida aussi qui a joué. Voilà. Après, on revient un peu à ce qu'on disait, c'est le projet du club. Mais à la fin, ce que j'aime moi aussi, c'est le fait que les entraîneurs aussi, les équipes premières MLS, bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'être prêt. Il faut être prêt à la première équipe et au haut niveau. Mais les coachs n'ont pas peur de les lancer dans le grand bain aussi, hein. Et ça, c'est pas forcément tous les clubs. D'ailleurs, toute pension gardée, c'est un débat important aujourd'hui au PSG avec tous leurs jeunes. Mais moi, je pense que c'est un mélange de vision du club, mais aussi du fait que les entraîneurs, ils se mouillent un petit peu. Ils n'ont pas peur de lancer dans le grand bain les jeunes. Et puis oui, c'est clair qu'il faut être prêt. Et tous ces joueurs-là sont prêts. À la fin, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir des entraîneurs ne pas hésiter à donner la chance et de donner des responsabilités et des opportunités à des jeunes joueurs. Parce que l'avenir est entre leurs mains aussi. Et puis de toute manière, il faut bien les lancer à un moment donné ou l'autre, hein. On sait que entraîner les jeunes et avoir des jeunes, c'est synonyme aussi d'erreurs, d'apprentissage. Mais tu le sais, et puis il faut accepter ça. Mais on en revient aussi au fait qu'il faut avoir une vision et le club qui veuille aller dans cette direction-là. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est vraiment très intéressant. Moi aussi, je trouve qu'il y a de plus en plus de clubs MLS qui lancent des jeunes joueurs dans le grand bain, et je trouve que c'est positif pour autant pour le Canada que pour les États-Unis, quoi.
L'autre joueur que Ismaël Koné dont tu as parlé, c'est Rida Zouir, c'est ça?
Ouais, exactement, ouais. Aussi qui est un jeune de l'académie.
Alors Maxime, on arrive au bout de l'entretien et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? C'est un service de recommandation. Est-ce que tu as un nom en particulier à me soumettre?
Comme je t'ai dit, moi je vais revenir sur un entraîneur que je t'ai dit tout à l'heure, Frank Hayes. C'est vraiment un entraîneur que j'ai appris à connaître là il y a 2 ans. J'aimerais vraiment en apprendre un peu plus. Je trouve que c'est quelqu'un qu'on n'entend pas assez. J'aimerais bien voir un petit peu plus et en entendre un petit peu plus sur son vécu et tout, et sur sa manière de voir les choses, même s'il y a eu déjà des reportages. Mais c'est vraiment une personne que je trouve très intéressante et que j'aimerais entendre.
Eh bien, ça me fera une nouvelle invitation à lancer. Merci beaucoup, Maxime Lecomte, pour ta disponibilité, pour la qualité de cet entretien. Et puis, bonne fin de saison avec les U17 du CF Montréal. Précision d'ailleurs, tu m'en as parlé tout à l'heure, la saison est calquée sur l'école.
Exact.
Donc, ça veut dire que vous êtes bientôt en vacances.
Bientôt, ouais. Après une saison chargée avec le Covid, on est bientôt en vacances. Encore un mois, mais ça a été intense, mais très enrichi d'expérience. Et puis voilà, on se préparera pour la prochaine saison. Mais merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment très intéressant de pouvoir partager tout ça.
Eh bien, écoute, merci à toi, Maxime. Et puis, à très vite.
Merci beaucoup à toi aussi.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.